Radio Prague, les informations.
La première réunion de la nouvelle Chambre des députés tchèques aura lieu probablement le 27 juin. Le député social-démocrate Pavel Plotz demande la protection de la police. Le dernier hommage à l'acteur du théâtre national Boris Reisner. Le président sortant de la Chambre des députés, Lubomír Zaorálek, estime que la réunion constituante de la nouvelle Chambre des députés tchèques, issue des dernières législatives, pourrait avoir lieu le 27 juin prochain. La date est acceptable aussi pour le président de la République, Václav Klaus. Le député du Parti social-démocrate tchèque, Pavel Plotz, est protégé depuis mardi par la police. Selon Pavel Plotz, on lui a offert 5 millions de couronnes, quelque 175 000 euros, en échange pour son départ de la social-démocratie et son adhésion au Parti des Verts. Cette adhésion aurait permis à la droite tchèque de sortir de l'impasse post-électorale et d'obtenir à la Chambre des députés la majorité de 101 sièges. C'est au Théâtre national de Prague que le public tchèque a rendu le dernier hommage dans la matinée de ce mercredi au grand acteur tchèque Boris Reisner, disparu le 31 mai dernier à l'âge de 55 ans. Boris Reisner a été membre du Théâtre national depuis la moitié des années 80 et a joué 46 rôles. La République tchèque figure sur la liste des États impliqués dans les vols secrets d'avions de la CIA avec à bord des personnes suspectes de terrorisme. Les avions de la CIA auraient utilisé des aéroports tchèques pour faire le plein pendant les transports de détenus pour des interrogatoires dans plusieurs pays dont la Pologne et la Roumanie. La République tchèque soutient toujours le projet allemand de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, selon lequel on devrait augmenter le nombre des membres permanents du Conseil. Une déclaration faite à Prague par Jan Kara du ministère tchèque des Affaires étrangères lors d'une conférence consacrée à l'ONU. Une exposition consacrée au dramaturge et prosateur irlandais Samuel Beckett a été inaugurée ce mercredi à l'université Tomáš Baťa dans la ville de Zlín en Moravie. Météo. Ce mercredi, fête de tous les Slavoj et Iveta, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été nuageux avec quelques averses et même quelques orages. Les températures diurnes n'ont pas dépassé 18 degrés. Jeudi, le temps en Tchéquie sera tout d'abord variable pour devenir ensuite nuageux. On prévoit aussi quelques rares pluies. Les températures diurnes se situeront entre 16 et 20 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Merci d'écouter Radio Prague. C'est toujours une incertitude politique qui plane sur le pays après les élections législatives du week-end dernier. Dans un instant, Rudolf Chmel, ministre slovaque de la Culture, nous donnera son point de vue sur le climat en République tchèque. C'est la Coupe du monde de football en Allemagne qui sera bientôt à la une de l'actualité sportive. Mais les yeux des Tchèques sont pour l'instant tournés vers la France, car Nicole Vajdicheva s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Roland-Garros. La chronique sportive dans ce magazine. Nous parlerons également de la visite à Prague de l'acteur et réalisateur français Mathieu Amalric. Toujours pas de solution en vue pour la formation d'un gouvernement tchèque alors que le chef de l'ODS a entamé des discussions avec les chrétiens démocrates et les verts, toujours indécis. Et la tension ne baisse pas. À Prague, des milliers de personnes se sont réunies sur la place Venceslas pour demander la démission du premier ministre Jiří Paroubek. Mardi, un député fraîchement élu sur une liste social-démocrate a déjà dénoncé la tentative de corruption dont il aurait fait l'objet pour passer dans le camp adverse. Comment observe-t-on ce qui se joue sur la scène politique tchèque depuis l'étranger? Direction aujourd'hui Bratislava. Les Slovaques, qui connaissaient bien la politique tchèque, se préparent à voter dans une dizaine de jours. Rudolf Chmel est l'actuel ministre de la Culture dans le gouvernement de droite de Mikuláš Zurinda. Alexis Rosenzweig lui a d'abord demandé si les politiciens slovaques tiraient des leçons de la situation tchèque.
Slovenskí, ale politici, myslím si, že v každom prípade veria, že...
Je pense que les politiciens slovaques espèrent tous que les Tchèques trouveront une issue à cette impasse et que la responsabilité et la sagesse politique prévaudront sur les émotions et la passion qui ont dominé la campagne électorale.
Le premier ministre slovaque, Mikuláš Zurinda, était venu apporter son soutien à l'ODS pendant la campagne tchèque. Il s'était plaint de la mauvaise image donnée à son pays par les sociaux-démocrates, un avis que ne partage pas Rudolf Hmel.
Je ne pense pas que la campagne électorale tchèque ait nui à l'image de la Slovaquie. La carte slovaque a été utilisée par les deux principaux partis tchèques, dans un sens comme dans l'autre, pour les avantages ou les inconvénients des réformes effectuées par le gouvernement slovaque. D'ailleurs, je ne pense pas que les résultats des élections tchèques auront une influence sur les élections slovaques. Les vies politiques des deux pays évoluent désormais parallèlement, sans que l'une puisse réellement influer sur l'autre.
Les Tchèques connaissent assez mal la scène politique slovaque, alors que les différentes crises politiques traversées à Prague sont suivies de près à Bratislava. Rien d'étonnant selon le ministre de la Culture.
L'intérêt des Slovaques pour la politique tchèque et pour la culture tchèque dans son ensemble est beaucoup plus intense que dans le sens inverse. Cela s'explique notamment par le fait que la presse et la littérature tchèque se vendent bien en Slovaquie et que les chaînes de télévision tchèques, privées comme publiques, ont toujours une forte audience en Slovaquie. Cet intérêt est pourtant loin d'être réciproque.
C'était Rudolf Hmel, ministre slovaque de la Culture, au micro de Radio Prague. La vague Nicole Vaidisheva continue de déferler sur le tournoi de tennis de Roland-Garros. Déjà tombeuse de la numéro 1 mondiale, Amélie Mauresmo en 8e de finale, la Tchèque s'est qualifiée pour les demi-finales de l'épreuve parisienne en venant à bout cette fois de l'américaine Venus Williams en 3-7, 6-7, 6-1, 6-3. Guillaume Narguet.
Cela faisait 8 ans que le tennis féminin tchèque n'avait plus été représenté à un tel niveau dans une épreuve du Grand Chelem. Depuis Jana Novotna en 1998 à l'US Open, aucune autre joueuse tchèque n'avait en effet atteint le dernier carré de l'un des 4 tournois majeurs de la saison, toutes restant très loin de la superbe de leurs glorieuses aînées des années 1980, lorsque Martina Navratilova, Anna Mandlikova ou encore Elena Sukova collectionnaient les titres. Il aura donc fallu attendre les exploits de Nicole Vaidisheva sur la terre battue de Roland-Garros pour que le tennis retrouve enfin une place de choix dans les pages sportives des journaux pragois. Bien que déjà vainqueur de 6 tournois sur le circuit professionnel, la jeune et grande Tchèque, élève de la célèbre académie de l'entraîneur américain Nick Bollettieri en Floride, est la grande révélation de cette quinzaine parisienne au cours de laquelle le public français apprend à la connaître avec plus ou moins de patience. Mauvaise perdante, la nouvelle starlette de l'Est possède toutefois un tempérament de feu qui, mardi, alors qu'elle avait pourtant perdu la première manche au jeu décisif, lui a permis de s'offrir le scalp de l'ancienne terreur des cours Venus Williams. Face à l'américaine bodybuildée, la Tchèque s'est imposée grâce à la lourdeur de ses frappes de balle. Une puissance qui n'offre pas un spectacle de rêve, mais qui s'est avérée être une arme redoutable pour prendre le dessus sur Mauresmo et Williams, deux joueuses pourtant pas réputées pour la finesse de leur jeu. À l'issue de son quart de finale victorieux, Nicole Vaidisheva avait donc toutes les raisons d'être satisfaite.
Ce match a été plus difficile que celui contre Mauresmo où j'ai joué presque parfaitement sans faire de faute et je n'ai pas eu de problème particulier. Cette fois, je n'étais pas dans le rythme en début de match et j'ai mal servi. Je pense que le premier set n'a pas été un bon spectacle. Je m'en suis voulu de ne pas l'avoir conclu. Mais j'ai positivé et je me suis battue pour revenir dans la partie. C'est quelque chose d'important, ne rien lâcher et inverser le cours des choses, même lorsqu'il ne vous est pas forcément favorable.
En demi-finale, jeudi, sur le court central, Nicole Vaidisheva sera opposée à la Russe Svetlana Kuznetsova, tête de série numéro 8, dans une confrontation slave qui promet d'ores et déjà de faire des étincelles.
C'est dans le cadre des rencontres de cinéastes français avec le public tchèque proposées par l'Institut français et l'Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion, ACID, que Mathieu Amalric et les frères Arnaud et Jean-Marie Larieux présentent cette semaine leur film à Prague. Une occasion donc de découvrir et redécouvrir le stade de Wimbledon réalisé en 2001 par Mathieu Amalric et Un homme, un vrai, premier film des frères Larieux dans lequel Mathieu Amalric tient le rôle principal. Le stade de Wimbledon, qui met en scène l'actrice Jeanne Balibar, la compagne de Mathieu Amalric, est une adaptation du roman italien de Daniel Del Giroudis. Son héros fait plusieurs voyages à Trieste et à Londres, avec cet unique objectif, reconstituer l'image d'un écrivain qui n'a pas publié de son vivant un seul livre. Mardi soir, Mathieu Amalric a expliqué la genèse du film au public de l'Institut français.
Ce qui est drôle, ça c'est un film qu'on a tourné à Trieste. Et juste avant le film, je me rendais compte que Prague et Trieste ont fait partie du même empire, finalement. Et j'essayais d'imaginer tous ces militaires tchèques qui sont forcément allés dans cette ville, qui est un mélange incroyable de langue, de culture, de littérature, et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais eu envie de faire un film, pas en France, pas chez moi, aller faire un film loin, dans une langue étrangère, si possible plusieurs langues étrangères qui se mélangent, et de partir à très peu. On a fait ce film, on était 7 dans l'équipe, et comme en fait, j'ai trouvé ce livre, Le Stade de Wimbledon. C'est un moment où j'écrivais un scénario avec plein d'actions dedans. Je me noyais dans un scénario classique et je savais plus pourquoi je faisais du cinéma, tout ça. J'y arrivais pas. Et puis j'ai fermé les yeux, j'ai pris un livre au hasard dans une bibliothèque et je me suis dit, je vais faire un film avec ça, avec ce livre-là. Le roman était écrit pour un homme et j'avais pas envie de jouer dedans. À un moment donné, Jeanne, donc Balibar, l'actrice, m'a dit t'as qu'à en faire une fille, et puis comme ça, on part tous les deux. Et vraiment, ça a commencé comme ça, comme une blague.
Mathieu Amalric et les frères Larieux, présents à l'Institut français ce mercredi et jeudi, ne sont pas les premiers envoyés de l'acide à Prague. Ils prennent le relais de Jane Green et de Mariana Otero. Pascal Deux, réalisateur et représentant de l'acide, explique comment fonctionne cette agence créée en 1992.
Le principe est simple, ce sont des cinéastes qui soutiennent d'autres réalisateurs et le travail d'autres réalisateurs. C'est très important. Dans notre esprit, dire soutenir, ce n'est pas seulement aimer. Il y a plusieurs films qu'on voit dans l'année qui nous plaisent et qu'on peut aimer. Soutenir, ça veut dire est-ce qu'on est suffisamment amoureux du film ? Est-ce qu'on a un coup de cœur suffisant pour avoir envie de s'investir ? Cet investissement, il peut être de plusieurs manières. Ça peut être d'abord d'écrire un texte sur les films en question, ensuite de les accompagner en région, puisque c'est généralement la mission de l'ACID, c'est-à-dire d'aider ce cinéma-là, ce cinéma d'auteur, à être plus présent dans n'importe quelle partie de la France, y compris dans un village assez reculé, comme on dit. Depuis un certain temps, on a aussi une partie internationale à l'ACID, c'est-à-dire que on essaie justement de faire connaître tout un pan du cinéma français, pas seulement français d'ailleurs, parce que je dois bien dire qu'à l'ACID, on soutient aussi des films venant tout à fait d'ailleurs, on peut tout à fait imaginer, on en a souvent d'ailleurs, de voir des films tchèques, des films d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, d'Amérique du Sud, de partout.
On termine ce magazine d'actualité en vous rappelant les règles du concours 2006 de Radio Prague.
Radio Prague fête son 70e anniversaire en 2006. À cette occasion, nous organisons un grand concours original qui sera basé sur vos capacités d'écoute et vos connaissances des sons. Nous vous ferons entendre 3 extraits provenant de nos archives. Pour participer au grand concours 2006, vous devrez identifier ces extraits et écrire un court commentaire pour chacun d'entre eux. L'auteur de la réponse juste la plus originale sera invité à un séjour d'une semaine à Prague pour 2 personnes. Les auteurs des meilleures réponses recevront des prix de valeur. Et tous ceux qui sont déjà venus à Prague devraient reconnaître le premier extrait, mais si ce n'est pas le cas, il n'est pas non plus difficile de découvrir d'où il provient. Le deuxième extrait évoque l'un des événements les plus dramatiques du XXe siècle dans l'histoire de Prague, un événement lors duquel la radio tchécoslovaque a joué un rôle très important.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Правда, товарищ, Красная армия. Нам нужна ваша помощь.
Et le troisième et dernier extrait provient d'un symbole du quartier de la vieille ville de Prague. Vous avez deviné ? Si oui, vous envoyez vos réponses avant le 18 juin 2006 à l'adresse Radio Prague, Vinohradska 12, Vinohradska 12, Vinohradska, code postal 120-99, Prague 2, République tchèque. Et vous pouvez aussi naturellement utiliser l'adresse courriel cr@radio.cz. La proclamation des vainqueurs sur les ondes se fera le 1er et 2 juillet 2006.
C'était Faits et événements en République tchèque par Magdalena Segertová. Merci de votre attention et bonne écoute de la suite historique de notre programme.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Les 630 années qui se sont écoulées depuis le couronnement de Venceslas IV, empereur germanique romain, le 10 juin 1376, sont une occasion de revenir sur le rituel du couronnement des rois de Bohême. Venceslas IV fut en effet le premier roi couronné selon un nouveau rituel établi par son père Charles IV. La cérémonie est rapprochée par une exposition inaugurée au château de Prague et intitulée « L'histoire des couronnements ». La lecture du texte du rituel vieux de plus de 600 ans, inspiré du sacre des rois de France, avec la description des moindres détails, gestes et paroles prononcés au cours de la cérémonie, est une histoire captivante qui nous en apprend beaucoup sur la vie de nos ancêtres. Le premier roi couronné dans l'histoire tchèque fut Vratislav II en 1085. Le rituel voulait que la couronne soit posée sur sa tête par l'empereur germanique et qu'il reçoive le sacre des mains de l'archevêque de Mayence. À partir de 1158 et définitivement en 1212, la couronne de Bohême est devenue héréditaire. Les princes de la dynastie des Przemyslides n'accédaient pas au pouvoir après un sacre. Leur pouvoir provenait de leur victoire et les princes s'étaient introduits dans leurs fonctions sur un siège en pierre placé sur la colline où se dresse aujourd'hui le château de Prague. Un tournant dans ce rituel se produisit en 1060 lorsque le prince Spitigniew obtenut du pape Nicolas II le droit de porter une mitre jusqu'alors réservée aux évêques. Le règne des princes des Przemyslides s'enrichit ainsi d'une dimension spirituelle. En 1086, les bénédictins du couvent de Brzevnov commandèrent à Ratisbonne, pour les besoins de la cérémonie du couronnement, le Codex de Vyšehrad, chef-d'œuvre dans l'enluminure médiévale contenant dans la partie finale les textes lus pendant le rituel du couronnement. Pour ce qui est du véritable rituel du couronnement, il ne fut initié qu'en 1347 par Charles IV, couronné la même année selon l'ancien rituel dans la basilique romane du château de Prague. Ses insignes lui furent remis au cours d'une messe solennelle et la couronne posée sur sa tête par l'archevêque Arnošt de Pardubice, qui dans le même temps orna d'un diadème sa première épouse française Blanche de Valois. Le lendemain du sacre, Charles IV décida de préparer un nouveau rituel du sacre qui allait être pratiqué au château de Prague jusqu'en 1836, date du couronnement du dernier roi Ferdinand V de la dynastie des Habsbourg. Pour ce nouveau rituel, Charles IV s'inspira du sacre des rois de France, tout en l'enrichissant d'éléments propres à la Bohême. La veille du couronnement, le cortège royal se dirigeait à Vyšehrad, où le souverain rendait hommage au fondateur mystique de la famille des Přemyslides, Přemysl Laboureur. Le rituel fut enrichi de prières relevant du choix de Charles. L'idée était d'établir l'image d'un roi idéal qui, après avoir reçu l'onction du sacre, devenait un envoyé du Christ. Comme on peut le lire dans le texte du rituel, le roi, l'évêque, les princes et d'autres membres du cortège revenaient de Vyšehrad au château de Prague pour se rendre aux vêpres avant d'accompagner le roi dans sa chambre solennellement décorée. Le matin, l'archevêque de la cathédrale, les évêques et les prélats qui portaient l'épée de saint Venceslas, les croix, les encensoirs et l'eau bénite se rendaient au palais pour conduire le souverain à l'église. Sur leur chemin, ils récitaient des prières et les princes portaient les insignes du pouvoir royal, la couronne, l'épée, le sceptre, le globe, qu'ils déposaient ensuite sur l'autel de la cathédrale Saint-Guy. Le roi se dirigeait vers le trône, installé devant l'autel, et agenouillé, écoutait les prières et les psaumes. S'ensuivait le serment prêté devant Dieu, les litanies, la messe, le rituel de l'onction, la bénédiction et la remise des insignes. Enfin, la couronne était posée sur la tête du roi. L'archevêque le bénissait et lui ordonnait de s'asseoir sur le trône. Le roi était acclamé et félicité par le clergé qui chantait « Te Deum Laudamus » et le plus vieux chant tchèque « Hospodine Pomiluini »« Seigneur, ayez pitié de nous ». Le rituel du couronnement voulait que le sacre du roi soit suivi du couronnement de la reine. Celle-ci recevait des mains de l'archevêque un globe différent de celui qui appartenait au roi, l'agneau de la foi et finalement la couronne. Elle était conduite sur le trône, accompagnée par l'abbesse du couvent Saint-Georges du château de Prague, dont la présence était exigée à chaque fois au rituel. La cérémonie se poursuivait par la bénédiction et la lecture de l'évangile selon saint Matthieu. Le roi était ensuite invité à sacrifier du pain, du vin et autant d'or que lui paraissait adéquat à sa dignité de roi. La cérémonie du couronnement se terminait par des prières et la communion. Le premier roi de Bohême couronné selon ce nouveau rituel établi par Charles IV fut son fils Venceslas IV. Il reçut le sacre à l'âge de 2 ans. Après sa mort, le deuxième fils de Charles IV, Sigismond, fut couronné au Nat en juillet 1420, après la bataille perdue contre les Hussites au mont de Witkoff, pour quitter peu de temps après la Bohême. Après sa mort, la couronne échut à son gendre, Albrecht de Habsbourg, couronné en 1438. Son fils, Ladislas dit le posthume, puisque né après la mort de son père, reçut le sacre en 1453, mais il mourut prématurément. Le souverain suivant, Georges de Poitiers-Brady, n'accéda pas au trône après un sacre, mais suite à une élection. Un procédé tout à fait inhabituel en Europe médiévale, le candidat ne pouvant pas présenter les prétentions dynastiques. Georges de Poitiers-Brady fut couronné en mai 1458. Souhaitant tout d'abord l'un de ses fils hérite du titre, il finit par proposer lui-même comme candidat au futur roi Vladislas Jagellon, couronné en 1471. La mort tragique du fils de ce dernier à l'âge de 3 ans ouvrit la voie aux Habsbourg sur le trône de Bohême en 1526. Entre 1085, date du couronnement du premier roi de Bohême, et 1526, 13 rois et 17 reines reçurent le sacre au château de Prague. Si l'on y ajoute les rois de la dynastie des Habsbourg, leur nombre s'élève à 16 rois et 21 reines. C'est tout dans cette émission. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt sur les ondes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.